Ce 30 avril, nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Caillé, pour notre entretien régulier sur les ondes de Radio La Pourdiratia et de Radio Présence Lourdes-Pyrénées. J'en profite pour saluer tous les auditeurs de ces deux radios et aussi notre collègue Violaine Ricourduna, qui est à la maison puisqu'elle attend un heureux événement. Et c'est aujourd'hui Olivier Drapé qui est avec moi, délégué épiscopal à l'information et à la communication, donc pour mener cet entretien. Bonjour Monseigneur Caillé.
Bonjour.
Alors Olivier Drapé, nous allons parler aujourd'hui de sujets de société, et puis nous aborderons ensuite différentes l'actualité locale avec le Pays Basque notamment, et puis nous parlerons bien sûr de l'Église universelle et puis des événements qui vont se dérouler dans notre diocèse très rapidement, très prochainement. Et nous commençons tout de suite par un premier sujet consacré aux états généraux de la bioéthique.
Oui, c'est un sujet sur lequel on a déjà pris la parole, on s'est exprimé sur ce sujet, mais aujourd'hui, 30 avril, c'est le jour de la clôture de la consultation des citoyens sur le site officiel des États généraux de la bioéthique, ce qui nous vaut un certain nombre de réactions, d'un côté comme de l'autre, aussi bien de la part de la mouvance LGBT pour laquelle les débats ont été noyautés par les catholiques ou par la Manif pour tous, qui cherche à imposer sa vision religieuse de la société. C'est une réaction qu'on peut voir actuellement circuler sur les réseaux sociaux et sur Internet ou dans la presse. Ou d'autres réactions, celle de Monseigneur Aupetit, par exemple, le nouvel archevêque de Paris, qui lui considère qu'une partie de nos concitoyens, y compris les catholiques, dit-il, ne prennent pas la mesure des changements qui risquent de nous impacter. Et il a l'air de déplorer l'ignorance ou le fatalisme, parfois, des catholiques ou de nos concitoyens sur ce sujet. Alors, quelle est votre position, Monseigneur, sur ce débat, la façon dont il s'est déroulé et les suites à donner?
C'est vrai que la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que finalement, ces états généraux de la bioéthique, qui ont été ouverts, je crois, en janvier de cette année, et qui se clôturent en effet le 30 avril, se sont passés de manière assez confidentielle. Même si les débats étaient assez ouverts, on en avait facilement la liste quand même et les lieux, grâce à un site qui d'ailleurs a été mis en fonction assez tardivement, on n'en parle pas beaucoup dans la presse. J'ai en effet ouï dire que beaucoup de citoyens engagés, c'est vrai dans le mouvement de la Manif pour tous, ont répondu présents assez facilement à ces différents débats qui ont été organisés au niveau national. Et que d'une certaine manière, les organisateurs ne pensaient pas que l'opposition à un certain nombre d'évolutions sociétales soit aussi présente dans ces débats et finalement peut-être dans la société française. Je crois cependant que Monseigneur Aupetit soulève une réalité qu'il faut bien regarder en face, c'est que nous ne sommes pas suffisamment, enfin les fidèles de l'Église catholique en particulier, et sans doute les citoyens au sens large, ne sont pas assez avertis en effet des défis que supposent ces évolutions sociétales annoncées, et peut-être par ignorance et manque d'informations concrètes et scientifiques. Alors je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que nous avons sans doute à participer à ce débat et en essayant d'être actifs dans ces différents débats organisés nationalement. Mais nous avons surtout à apporter une grande information de type objectif, scientifique et éthique à nos fidèles. Je crois que c'est une première chose et je pense que la Conférence évêque de France, à travers ses fameuses fiches techniques sur chacun des 9 sujets qui ont été listés par le Conseil consultatif national d'éthique, qui ont été aussi vulgarisés dans le diocèse de Paris par des fiches un peu plus brèves et même un petit ouvrage à la portée de tous, ont pour effet de diffuser largement ces informations qui permettent de saisir l'enjeu du débat et peut-être d'avoir une influence possible au moment des débats parlementaires, en particulier en allant à la rencontre des élus qui nous représenteront lors de ces débats parlementaires. La deuxième chose que je dirais, c'est aussi que le fait qu'il y ait une multitude de sujets intégrée à cette révision des lois de bioéthique fait que les plus importants, me semble-t-il, ceux qui provoqueraient un vrai basculement culturel et d'ailleurs durable, pourraient paraître presque inaperçus au milieu de cette floraison de sujets abordés. C'est sûr que l'intelligence artificielle est une réalité importante, surtout avec les évolutions technologiques d'aujourd'hui, mais il ne faudrait pas occulter les points qui me semblent les plus fondamentaux et dont l'urgence du traitement n'échappera à personne, qui sont le statut de l'embryon, qui est quand même voué à la manipulation, à l'expérimentation, et qui donc est une atteinte à la dignité de la personne. Et il y a la PMA pour toutes, donc la procréation médicalement assistée, là où, jusqu'à présent, même si on peut avoir un avis éthique sur la question divergent, mais jusqu'à présent, la procréation médicalement assistée est là pour réparer une infertilité, donc des faits qui sont liés à la nature de l'infertilité, devient le lieu d'une organisation par la loi d'une conception d'enfant sans père. Là, c'est une autre affaire. Et on voit bien qu'il y a un vrai problème éthique. Et puis le problème de la fin de vie de l'euthanasie, je le répète que la dernière révision date de 2016, avec la loi Claeys-Leonetti, qui n'est seulement pas parfaite, mais en tout cas qui insiste fondamentalement sur les soins palliatifs, et se refuse à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Et pourquoi, en dernier ressort, de manière un peu inattendue, ce sujet a été mis sur le tapis de la révision des lois bioéthiques de 2018. Enfin, je termine par un point que vous avez souligné. On a beau jeu d'accuser la Manif pour tous ou les milieux catholiques d'imposer leur vision religieuse, mais je rappelle que quand les chrétiens s'engagent dans ce débat sur la révision des lois bioéthiques, ils ne se situent absolument pas par rapport à leur foi, mais par rapport à la raison. Nous sommes dans un débat qui, avec tous les citoyens, et dont l'instrument est la raison éthique. Alors que l'Église puisse purifier la raison éthique et renforcer les données de raison par les données de la foi, et donc de la révélation sur le dessein de Dieu, sur l'homme, le mariage, la famille et la vie humaine, la dignité de la personne humaine, c'est une chose. Mais l'Église, là, se situe dans un débat et dans un dialogue au niveau de la raison scientifique et la raison éthique.
Monseigneur, pour revenir sur le sujet de la fin de vie, de l'euthanasie, ce sujet a pris une ampleur à laquelle on ne s'attendait peut-être pas. D'une part, en raison d'un récent avis du Conseil économique, social et environnemental le 10 avril dernier, qui s'est prononcé de façon assez majoritaire d'ailleurs en faveur de ce qu'on appelle la sédation profonde, explicitement létale, c'est-à-dire en réalité en faveur de l'euthanasie. Mais il y a aussi deux affaires très médiatisées qui ont attiré l'attention de l'opinion publique, mais aussi qui ont suscité des appels à plusieurs reprises du pape François. C'est l'affaire Vincent Lambert, dont on parle depuis bien des années, et une autre affaire qui s'est d'ailleurs dénouée il y a seulement quelques jours par la mort de son protagoniste, en quelque sorte, le petit Alfie Evans en Grande-Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces deux cas et nous peut-être commenter les appels que le pape François avait lancés en leur faveur? Pape François qui d'ailleurs s'est dit très, très ému, profondément touché, a-t-il dit, par la mort du petit Alfie Evans en Grande-Bretagne.
Il faut souligner en effet que c'est quand même assez exceptionnel que le pape prenne publiquement position devant des milliers de personnes et des millions de téléspectateurs, parce qu'en général, c'est diffusé de manière mondiale, au cours d'un Regina Coeli, donc d'un Angélus du dimanche, et au cours d'une audience générale du mercredi, il a cité à deux reprises deux personnes, parmi les milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre aujourd'hui, le petit Alfie, en effet, dont les parents demandaient de pouvoir assurer le transfert dans un autre hôpital, le pape s'engageant à accueillir cet enfant dans un hôpital del Bambino Gesù pour les enfants malades, dépendants du Saint-Siège. Et d'ailleurs, la République italienne, à la demande du pape, avait même donné la nationalité italienne à ce petit garçon. Et contre la volonté des parents, considérant que les soins qui lui étaient apportés, puisqu'il était sous respiration artificielle, sans lesquels il ne pouvait pas vivre, cet enfant de 24 mois, étaient disproportionnés, la justice britannique, contre l'avis des parents, décide de mettre fin à ce traitement et donc de condamner cet enfant à mort, pour parler vulgairement. Et le pape s'est prononcé en faveur de cet enfant et a fait des démarches même concrètes pour que cet enfant soit, à la demande des parents, admis dans cet hôpital romain. Quant à Vincent Lambert, là aussi, il y a quelque chose de médiatiquement qui est très surprenant, c'est que le pape est aussi intervenu en sa faveur pour demander qu'on respecte leur vie à ses deux frères, comme il dit, Alfie et Vincent Lambert, et ce n'a pas du tout été médiatisé. Seul Ouest France a fait part de cette intervention du pape. Aucun média nationaux n'ont fait référence à cette intervention du pape dans ce débat, alors qu'ils ont parlé de Vincent Lambert et d'Alfie. Vincent Lambert, je rappelle qu'il n'est pas, contrairement à ce que disent les médias, dans un état végétatif, mais aussi relationnel. Ça veut dire qu'il est capable d'une certaine communication, même si elle est très relative. Il n'est pas en fin de vie, il n'est pas malade. Et il pourrait même, s'il était rééduqué, sans doute, d'après un certain nombre d'experts, être capable d'être nourri normalement. Donc là, il y a là aussi, en effet, quelque chose qui est assez qui remet en avant, en effet, cette question de l'euthanasie. Alors c'est sûr qu'on peut déplorer qu'une famille se déchire autour de ce cas. On n'a pas d'ailleurs à juger ni les uns ni les autres. Ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'on peut arrêter les traitements basiques, les soins basiques, qui ne sont même pas des traitements médicaux, comme la nutrition et l'hydratation, de quelqu'un qui n'a pas perdu sa dignité sous prétexte qu'il n'est pas capable de communiquer de manière suffisamment consciente.
Merci, Monseigneur. Nous retrouvons dans quelques instants pour la seconde partie de notre émission.